Session d'initiation théologique par le Père Philippe à Rimont, le 18 novembre 1988, troisième conférence sur le Christ.
Question qu'on se posait ce matin, à l'objection si vous voulez, vous voyez comment on peut essayer de répondre. N'oublions pas que la position de saint Thomas est une position très particulière. Quand nous regardons le développement de la pensée théologique, par rapport au Père de l'Église, par rapport à Albert le Grand, par rapport à Saint Bonaventure. C'est une position très particulière, très spéciale, que saint Thomas lui-même explicite. On peut très bien ne pas être d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est que l'Église a été d'accord. C'est ça qui m'intéresse, moi. L'Église aurait mis saint Thomas à la porte en disant, écoutez, non, vraiment, hein. C'est pas saint Thomas qui est le docteur subtil. Je me souviens, dans le temps, quand j'étais encore étudiant, j'allais suivre des cours aux études de Vigneault sur Occam. Et Vigneault disait tout le temps, oh saint Thomas, c'est si simple. Occam, au moins, c'est compliqué. Alors, si vous trouvez que saint Thomas est compliqué, lisez Occam. Et vous trouverez alors après que c'est une simplicité, saint Thomas. Là où saint Thomas met une page, Occam en met 20. C'est vrai, c'est une complication. Docteur subtil. Parce qu'un logicien qui aime de diviser indéfiniment. Alors, saint Thomas est difficile pour nous. Parce que nous n'avons pas le même style de pensée. Regardez les vitraux de Chagall et les vitraux de Chartres. Je ne sais pas si vous avez vu les vitraux de Chagall, mais si vous allez à Jérusalem, si vous allez en Israël, regardez les vitraux de Chagall. Ils ont été exposés pendant un certain temps, il y a déjà un petit moment, à Paris. C'est du Chagall. Chartres. C'est du Chartres. Eh bien, saint Thomas, c'est ça. C'est Chartres. Je crois que c'est la cathédrale qui le montre le mieux. Est analysé jusqu'au bout. Absolument tout. Et tout est analysé en fonction, non pas du tout, on dirait, du contexte. C'est de l'intérieur. C'est ça qui est si grand. Et c'est pour ça que la somme théologique de saint Thomas a encore valeur aujourd'hui. Dire que saint Thomas, c'est le chef-d'œuvre du Moyen-Âge. C'est vrai, mais c'est vrai aussi pour nous. Parce que la somme théologique de saint Thomas n'est pas édifiée en fonction des conditions du moment. C'est édifié à l'intérieur de l'Église, en face de ceux qui se sont opposés au mystère de l'incarnation. Il ne faut jamais l'oublier. C'est au début. Question 2, article 6, où saint Thomas relève les deux grandes positions contraires à l'intelligence divine du mystère de l'incarnation. ceux qui confondent les natures, Eutychès, condamné par Calcédoine, ceux qui séparent les deux personnes. Alors vous avez Nestorius. Et on retrouve toujours les mêmes positions. Pour nous, aujourd'hui, on est en face d'une position théologique qui veut exalter l'homme. On l'exalte tellement qu'on voudrait trouver en Jésus une personne humaine. Vous voyez, c'est curieux, hein ? C'est un peu les deux erreurs qui se trouvent combinées aujourd'hui. Trouver dans le Christ avant tout la personne humaine, l'homme. C'est pour ça qu'on se pose la question de la conscience que Jésus avait de sa divinité. Ça n'a pas effleuré la pensée de saint Thomas. Absolument pas. C'est un subjectivisme le plus absolu qui soit. Et pour saint Thomas, il montre la grandeur du mystère au-delà de ces deux positions qui attaquent le mystère de l'union hypostatique. Vous voyez, quand vous parlez du mystère de l'union hypostatique, hein, comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que la nature de Dieu assume la nature de Dieu dans le Verbe et liée à la nature humaine dans l'hypostase du Verbe. Hypostasis. C'est un mot grec. C'est pas un mot français, hypostase. C'est pour ça qu'on ne le comprend pas. C'est un mot grec, hypostase. Et hypostase, c'est l'indépendance dans l'ordre de l'être de la substance. Une substance a ce privilège d'être principe dans l'ordre de l'être. Donc, elle existe par elle-même. Hypostasis, elle se tient par elle-même. Et pour une nature spirituelle, l'hypostase, c'est la personne. Et donc, l'union de la nature humaine et de la nature divine se fait dans la personne du Verbe. Ne cherchez pas à comprendre, hein, c'est un mystère. Mais soyez corrects. On a le devoir, hein, d'essayer de saisir ce que l'Église, dans ses conciles, ses premiers conciles auprès du Christ, a précisé en face d'erreur. Le mystère de Jésus est un mystère à la fois humain et divin. Mais c'est l'union de l'homme et de Dieu, non pas dans une confusion, mais dans une unité. Et l'unité la plus grande qui soit, comme dit saint Augustin, qui est l'unité du Verbe. Dans le Verbe de Dieu subsiste la nature divine. Le Verbe ne fait qu'un avec le Père. Il ne fait qu'un avec le Père. Il est Dieu. Il n'y a pas deux natures divines. Il n'y en a qu'une. Mais dans la nature divine, il y a trois personnes. Mystère de fécondité. Dans la nature divine, il y a trois personnes. Et ces trois personnes sont distinctes, mais ne sont pas séparées. Elles sont une dans leur être, dans leur nature. Elles sont une. Une, un seul Dieu. Le monothéisme. Demeure, qui est affirmé au point de départ Je suis celui qui est. Et à l'intérieur de ce monothéisme, cette unité, la révélation qui pouvait seule nous révéler ça, nous révèle la vie intime de Dieu. Vous voyez, être et vie. Le monothéisme, c'est l'unité dans l'ordre de l'être. La révélation de la très sainte Trinité, c'est la fécondité dans l'ordre de la vie. Mais en Dieu, être et vie ne font qu'un. C'est là le mystère. Et pour nous, c'est par le point de vue de la vie que nous comprenons la fécondité. La fécondité n'est pas au niveau de l'être, au niveau de la vie. Et c'est dans ce mystère de fécondité que nous découvrons que l'unité demeure et qu'il y a distinction des personnes. Le Père, le Fils, qui est le Verbe, et l'Esprit Saint. Et le Verbe, dans sa personne de Fils bien-aimé, introduit au plus intime de son être la nature humaine par Marie, par l'Esprit Saint et par Marie. La coopération de l'Esprit Saint et de Marie pour former le corps du Christ et l'âme du Christ est créée par la toute-puissance de la très sainte Trinité. Et cette âme subsiste dans le Verbe. Pour saint Thomas, c'est capital pour nous de revenir toujours à cette grande affirmation que l'Église, en méditant les évangiles, saint Paul, les épîtres, a découvert progressivement à travers les grands conciles sur le Christ cette unité de Jésus. Il est un dans son être. Il est un dans sa personne. Et il est deux natures. Et en lui, la vie divine et la vie humaine. Et en lui, la volonté du Fils bien-aimé, qui ne fait qu'un avec la volonté du Père, et à cette volonté humaine. Puisque une nature humaine implique cette volonté, implique l'intelligence. L'Église, par les conciles, dans ces conciles, ces premiers conciles, a précisé la grandeur de ce mystère. Et saint Thomas, en théologien, essaie de montrer, en évitant toutes les erreurs, la grandeur de ce mystère. Vous voyez, c'est le rôle du théologien de montrer la grandeur du mystère. Autrement dit, le théologien sait cette fameuse parole du psaume, les hommes ont diminué la vérité. C'est toujours ce que font les hommes. Les hommes diminuent la vérité. Parce qu'ils reçoivent la parole de Dieu selon leur mode particulier. Ad modum recipientis. Si vous allez à la source avec un tout petit récipient, vous recevez l'eau en petite quantité. Si vous allez à la source avec un immense tonneau, vous recevez beaucoup. La source, c'est la révélation. Alors si vous y allez avec un tout petit récipient, votre raison humaine qui résonne tout le temps, à votre dimension, vous diminuez la vérité. Et le théologien est là, parce que toutes les hérésies, c'est diminuer la vérité, hein, dans l'ordre pratique ou l'ordre spéculatif. C'est toujours des petites intelligences. Tous les hérétiques, c'est des petites intelligences qui n'acceptent pas la sagesse de Dieu. Ils sont arrêtés. On veut contenir Dieu dans notre petite intelligence. Alors que la révélation nous donne la lumière en plénitude. Et on veut la ramener à nous. On diminue la vérité. Le théologien est là pour enlever tout cela. Vous voyez, il lutte contre le conditionnement humain. C'est ça la grandeur du théologien. Pour essayer de montrer la grandeur du mystère et ce qu'il y a d'unique dans ce mystère. Et la grande lumière que saint Thomas prend tout le temps pour nous faire entrer dans ce mystère de l'union hypostatique, c'est-à-dire de l'union dans la personne du Verbe, de la nature divine et de la nature humaine, c'est la bonté infinie de la très sainte Trinité. Et c'est la miséricorde infinie de Dieu pour se pencher sur l'homme pécheur et se servir du péché pour lui donner plus. Puisque c'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est de regarder la misère de celui qui est en face de nous. Et à la place, tout simplement, de dire « Oui, je te pardonne. J'oublie. » Oui, toujours bien distinguer l'oubli du pardon. Le pardon est l'œuvre de la miséricorde. L'oubli, c'est pas l'œuvre de la miséricorde. L'oubli est d'ordre psychologique. Les Grecs avaient très bien compris ça. Le fleuve de l'oubli. Le mythe de l'oubli. C'est psychologique. Vous savez, rappelez-vous dans votre vie, hein, tout ce que vous avez oublié. C'est merveilleux de se rappeler ça. Tout ce que vous avez oublié. Et puis ce qui reste. Les psychanalystes sont là pour déterrer les oublis. Et ils croient nous guérir en déterrant les oublis. Quelquefois, ça peut aider. Ça peut aider. Mais ce n'est pas ça qui guérit. Ce qui guérit, c'est la source. C'est notre âme. Les sources de vie. Alors, évidemment, il y a des obstacles. Alors, quelquefois, on enlève ces obstacles, les grosses oublières. On avait complètement oublié dans sa jeunesse. On avait un père insipide, ce qui arrive toujours, n'est-ce pas, arrive à un certain âge. On avait un père qui nous étouffait parce qu'il était merveilleux, il était tellement grand. Alors on vous rappelle ça, c'est très bien, je n'ai rien contre, puisque l'oubli, on l'avait oublié. On le rappelle. Mais c'est pas ça qui guérit. Ce qui guérit, c'est de comprendre que vous avez une vitalité qui ne vient pas de votre père, qui vient de Dieu. Et vous ressemblez plus à Dieu qu'à votre père. À dire, ah, voyez la bonté de Dieu. Le Christ nous ouvre à la bonté de Dieu. C'est merveilleux. Fils bien-aimé, en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Dit que la pierre tombale que le Père avait mis sur notre dos, il n'avait pas mis toutes ses complaisances en nous. Oui, les hommes diminuent la vérité dans l'ordre intellectuel, dans l'ordre affectif. Un Père diminue, même s'il est très bon, hein, il diminue l'intelligence de son Fils, la capacité d'aimer de son Fils, toujours. Parce qu'il la regarde en fonction de lui. Seul Dieu, qui est notre Père, ne diminue pas ça. Et c'est Jésus qui nous montre ça. C'est la bonté et la miséricorde. Dieu pardonne. On ne dit jamais que Dieu oublie. Dieu pardonne. Parce que Dieu n'oublie rien. Il n'oublie rien pour pardonner. Et il se sert de toutes nos bêtises pour nous donner plus. C'est ça le mystère de l'incarnation. C'est ça le mystère de la rédemption. Donc vous voyez bien ce rôle particulier de saint Thomas par rapport au mystère de l'incarnation. Et c'est beau de voir ça. Et saint Thomas avait étudié alors de près cette nature humaine que Jésus va assumer. Il va regarder toutes les qualités de cette nature humaine et va montrer que dans le mystère de l'incarnation, c'est la nature humaine dans son état le plus parfait. L'homme parfait, c'est Jésus. Le rêve de Platon, l'homme en soi, la révélation nous dit qu'il existe en Jésus. C'est l'homme parfait. C'est l'homme idéal. Vous ne pouvez pas rêver un homme plus parfait que lui. C'est extraordinaire. Et l'humanité rêve toujours un homme parfait. Toujours. L'humanité, dans sa jeunesse, rêve un roi. L'humanité, dans son âge mûr, rêve d'un président de la République et qu'il soit parfait. Je sais pas, ça si le rêve continue. Parce que je crois que quand il est à ça, il ne rêve plus à ce moment-là. C'est curieux, hein ? Ce grand rêve des hommes. Un homme parfait. Une mère parfaite. Saint Thomas dit que Dieu aurait pu créer un monde plus parfait qu'il l'a créé. Mais il ne pouvait pas réaliser un chef-d'œuvre plus grand que le mystère de l'incarnation. Il ne pouvait pas réaliser quelque chose de plus grand qu'une femme mère de Dieu. Là, on touche deux absolus. Et on ne peut jamais être déçu. Vous ne pouvez jamais être déçu par le Christ. Vous ne pouvez jamais être déçu par Marie. La femme la plus parfaite, parce qu'elle est mère de Dieu, parce qu'elle est immaculée. Alors là, j'ajoute quelque chose que saint Thomas n'a pas connu, parce que saint Thomas n'a pas connu l'Immaculée Conception. Vous voyez, ça, je complète. Hein. Et saint Thomas nous demande de compléter. Parce que l'Immaculée Conception a été précisé depuis saint Thomas. Et saint Thomas, avec toute son intelligence, avec toute sa foi, n'a pas su découvrir que Marie était immaculée. C'est beau, ça. C'est beau parce que ça nous fait comprendre que quand l'Esprit Saint nous fait dévoiler quelque chose de l'Écriture, les plus grands saints n'ont pas vu. Et ça donne un petit peu d'humilité quand on regarde l'Écriture. Quand on arrivera au ciel, on dira, mais comme on a été court, les hommes diminuent la vérité. On dira, mais tout ça a été révélé. Vous n'avez pas compris. Les deux grands absolus, l'homme parfait. Et saint Thomas nous montre ça. Alors là, il faudrait entrer dans toute l'analyse de saint Thomas. Mais c'est très beau. Quand on regarde l'analyse saint Thomas, c'est là on voit ce que c'est que l'anthropologie de saint Thomas. C'est quand on regarde l'humanité sainte de Jésus. Là, vous découvrez l'homme, image de Dieu. Et plus qu'image de Dieu, fils bien-aimé. C'est l'image qui rejoint le modèle. Et qui est fils bien-aimé. L'homme est fils bien-aimé dans le Christ. L'homme n'est pas seulement une image, il est beaucoup plus. Il est celui qui nous manifeste pleinement le mystère du Père. Saint Thomas étudie d'une façon très particulière particulière, toutes ses qualités. Et c'est surtout la science. Hein. C'est bien. Ceux qui fréquentent un peu saint Thomas savent que saint Thomas s'est attardé d'une façon très particulière pour nous montrer la lumière qui est dans le Christ. Vous savez, quand on parle des kéroubines hein, dans l'Écriture, hein, cette espèce d'annonce, du mystère de l'annonciation, de l'incarnation, ils ont des yeux partout. C'est extraordinaire. Et Jésus, il a une nature humaine toute lumineuse. Et des yeux partout. Ça, c'est très beau de voir ça. Ça, je crois que c'est vraiment, vous voyez, j'allais dire, la perle de toute cette attitude du Moyen-Âge. On aime la lumière. Et on essaie de découvrir comment Dieu qui est lumière va rendre la nature humaine de Jésus dans la lumière. C'est dans la lumière qu'il faut regarder l'humanité sainte de Jésus. Il n'y a pas de ténèbres. Tout est lumineux. Toutes les capacités de lumière sont données à Jésus. Et c'est pour ça que saint Thomas insiste tellement sur la connaissance de Jésus. Il est le Verbe, donc la lumière. Et au sommet de son intelligence, il y a la vision béatifique. Il y a la science infuse. Et il y a la science expérimentale. Voyez les degrés du savoir. Hein? Tel que un théologien les regarde. Et puis les degrés du savoir, tel qu'un philosophe les regarde. C'est une autre dimension. Les degrés du savoir, ça se termine en Dieu. Vision béatifique. Et non seulement ça se termine en Dieu, mais c'est Dieu. Dieu est lumière. Et la lumière se donne progressivement. Un aspect aussi sur lequel saint Thomas a beaucoup insisté et qui pour nous est très intéressant, c'est de voir combien saint Thomas a voulu comprendre que l'humanité sainte du Christ, dans l'humanité sainte du Christ, il y avait des passions. Ça, c'est une originalité de saint Thomas. Et c'est très intéressant pour nous aujourd'hui. Hein? Parce que les théologiens avant saint Thomas avaient très peur sous l'influence du stoïcisme. Ah, il faut bien comprendre comment Aristote libère l'homme du stoïcisme. Sous l'influence du stoïcisme, les pères de l'Église sont assez influencés par le stoïcisme. Sous l'influence du stoïcisme, le Christ n'avait pas de passion. Évidemment, il y a des passages dans l'Écriture qui sont difficiles à expliquer si le Christ n'a pas de passion. Quand, en face de Marie qui pleure, Jésus, et à cause de la mort de Lazare, Jésus a un frémissement dans tout son être. Ce frémissement, il est passionnel. Au grand sens du mot, c'est dans sa sensibilité. C'est pas uniquement dans la fine pointe de son âme. Quand Jésus voit les petits-enfants, quand Jésus voit qu'on scandalise les enfants, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui Jésus devant les affiches qui scandalisent les enfants? Quand il y aurait des commandos qui la nuit enlèveraient toutes ces affiches. On sent bien que Jésus est blessé par ça, blessé dans son cœur d'homme, dans la sensibilité du Christ. Personne n'a été aussi sensible que le Christ. Nous avons des sensibilités d'hippopotame à côté de celle de Jésus. Vous savez, les sensibilités d'hippopotame, c'est assez gros. La sensibilité de Jésus. Et saint Thomas, à la suite d'Albert le Grand, s'arrête à cette sensibilité de Jésus et montre que dans le Christ, il y a les passions à l'état absolument pur. La nature humaine réclame les passions. On est un homme véritable que quand on est passionné. Mais pas des passions qui font qu'à ce moment-là, la raison, l'intelligence, la volonté ne peut plus s'exercer. Ce sont des passions entièrement spiritualisées d'intérieur, mais qui demeurent passions humaines. C'est très beau ça, parce que ça fait découvrir, vous voyez, tout un aspect de saint Thomas, très tendre. Ça fait découvrir un aspect de saint Thomas très proche de nous. Saint Thomas, théologien du Christ, revendique les passions purifiées, des pro-passions, comme il les appelle. C'est très grand, ça. Pour moi, c'est très grand. C'est un aspect extrêmement beau de saint Thomas. Et tout cela pour nous faire comprendre le mystère de la passion. Jésus a pâti. Alors là, on arrive à quelque chose qui est très important pour nous. Pour saint Thomas, tout le mystère de l'incarnation est ordonné au mystère de la rédemption. Comment sont traités sur le Christ en montrant le Sauveur. Jésus, c'est le Sauveur. Et tout le mystère de l'incarnation doit être vu dans la... Sauveur. Alors, vous voyez, c'est très beau. On se dira, mais alors pourquoi il n'a pas commencé tout de suite par le mystère de la rédemption? Puisque vous dites que tout est commandé par le Sauveur. Il aurait dû commencer par le mystère de la rédemption. Et puis montrer que le mystère de la rédemption exigeait le mystère d'incarnation. Pourquoi a-t-il commencé par le mystère d'incarnation? Si ce mystère, pour lui, est tout entier donné au mystère du salut. Là encore, c'est parce qu'il fait une œuvre de théologien scientifique. L'intelligibilité première du mystère du Christ, c'est le mystère de l'union hypostatique. Ce mystère de l'union hypostatique, j'allais dire, va fleurir dans le mystère de la rédemption. C'est dans le mystère de la rédemption que nous découvrons en plénitude le mystère de l'incarnation. Marie a contemplé le mystère de l'incarnation de la manière parfaite quand elle était au pied de la croix. C'est le mystère de la croix, c'est le mystère de la rédemption qui montre, qui manifeste de la manière la plus éclatante pour nous ce qu'est le mystère de l'incarnation. Seul le Verbe devenu chair pouvait réaliser le mystère de la croix et le mystère de la rédemption. Le mystère de la croix et le mystère de la rédemption, c'est l'œuvre propre du Fils qui s'est fait homme. Vous voyez, là, saint Thomas est très joannique. Il l'est dans toute son œuvre, mais il y a des pointes qu'il faut bien saisir. Il est très joannique, puisque pour saint Jean, l'heure de Jésus, c'est la croix. L'heure, c'est-à-dire, c'est là où Jésus réalise ce pourquoi il est venu. Sa mission. Sa mission de sauveur. Sa mission de rédempteur. Il est venu pour cela. Et donc, c'est le mystère de la croix qui va nous donner l'ultime lumière sur le mystère de l'incarnation. Mais il faut d'abord comprendre, dans une théologie scientifique, autant qu'on le peut, ce qu'est le mystère de l'incarnation, de l'union hypostatique, pour saisir la profondeur. profondeur du mystère de la croix. Les deux se tiennent. Vous voyez, là encore, être et vie. Le mystère de la rédemption, c'est dans la lumière de la vie. Le mystère de l'incarnation, c'est dans la lumière de l'être. C'est-à-dire, c'est tout l'aspect de la sagesse philosophique, métaphysique, qui est assumé. Et le mystère de la croix, c'est toute la sagesse de l'éthique qui est assumée, c'est-à-dire l'amour. Dieu est lumière, Dieu est amour. Et on aura les deux grandes lumières. C'est pour ça que le mystère de Christ est pour nous, et saint Thomas le montre bien, c'est pour nous la voie royale par où nous entrons dans le mystère du Père, dans le mystère de l'Esprit Saint. Et le mystère du Christ va s'achever pour nous dans le mystère de l'Eucharistie. Et c'est bien l'Eucharistie qui est la voie royale par où nous pénétrons dans le mystère du Père. Le Père donne le pain. C'est le Père qui donne le pain. Et le pain donné par le Père nous fait comprendre comment Jésus nous attire à lui, nous transforme en lui, pour que nous soyons avec lui source d'amour, source jaillissante. Je voudrais, dans cette perspective, essayer de comprendre comment saint Thomas, en théologien, va préciser l'ultime lumière du mystère de la rédemption. C'est pas commode, hein, mais c'est peut-être pour saisir là l'originalité ultime de saint Thomas. Je précise, parce que c'est quand même important pour nous de comprendre cette lumière ultime que nous donne saint Thomas sur le mystère de la rédemption. Je regarde d'abord la manière dont saint Thomas montre dans le mystère de l'union hypostatique les conséquences du mystère de l'union hypostatique. Et quand saint Thomas dit les conséquences du mystère de l'union hypostatique, il nous montre que, en raison même de ce mystère de l'union hypostatique, on va préciser ce qui caractérise la nature humaine du Christ. La première chose que saint Thomas fait, c'est de montrer dans le Christ, il y a une unité d'être. L'être du Christ, c'est l'être du Verbe. Ça va très loin. En termes précis, si on prend le langage de saint Thomas, on dira l'unité de l'essai. L'existence du Christ, c'est l'existence du Verbe. Et ça, je crois, je sais très bien que c'est discuté, mais si on est attentif à saint Thomas, ça me semble assez net. C'est très beau. Vous voyez, c'est la conséquence dernière du mystère de l'union hypostatique. La personne, c'est le je suis. Quand Jésus dit je suis, est-ce que c'est la nature humaine ? Ou est-ce que c'est le Verbe qui assume la nature humaine? Or, dans l'évangile de Jean, c'est net, hein, le ego eimi. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est une affirmation extraordinaire. Le je suis du Christ. Ça devait être quelque chose particulièrement impressionnant Et c'est Jésus qui se présente dans ce qu'il a de plus personnel, de plus lui-même. Quand Jésus dit « Je suis », est-ce que c'est la nature humaine de Jésus? On dirait sa conscience humaine. Voilà, c'est moi. Quand vous dites « c'est moi », regardez-moi, c'est moi. Quand Jean-Jacques dit « je suis », regardez-moi bien, je suis l'homme. Il dit ça, Jean-Jacques Rousseau. C'est extraordinaire. Regardez-moi bien, je suis l'homme. Comprenez-moi et vous comprendrez l'homme. Un peu de toupet de dire ça. Hein. Personne d'entre nous n'oserait dire ça. Hein. Quand Jésus dit « je suis », il reprend la parole de la première révélation où Yahvé dit « je suis ». C'est-à-dire, c'est Dieu qui se présente à nous, c'est Dieu présent au milieu de nous, c'est Dieu qui nous montre combien il est proche de nous. L'Emmanuel, Dieu avec nous, je suis. Bien ce je suis, je crois bien que c'est le Verbe de Dieu, la personne du Verbe, assumant la nature humaine. C'est Dieu qui prend un visage d'homme. Vous voyez, c'est les quatre vivants de l'Apocalypse. Quand Jésus dit « je suis », c'est le lion, c'est le taureau, c'est le visage d'homme, c'est l'aigle. Il est tout ça. Je suis. Ça, c'est très important. C'est une pointe. Puis saint Thomas montre, par rapport au Père, la relation du Christ par rapport au Père. Autrement dit, l'humanité dans le Christ acquiert une situation nouvelle par rapport au Père. Une nouvelle dépendance, une nouvelle intimité dans la prière. Et quelque chose de très particulier, le mystère du sacerdoce. L'humanité de Jésus par rapport au Père, a comme situation nouvelle, c'est d'être prêtre. Jésus est prêtre. Le « je suis » du Christ va se traduire dans son sacerdoce. Comme les relations du Père et du Fils sont réciproques, après avoir regardé la relation du Fils à l'égard du Père, il regarde la relation du Père à l'égard du Fils. C'est la prédestination. Il regarde en dernier lieu la relation du Christ par rapport à nous. Et à ce moment-là, il parle de la médiation. Alors, voyez, je me permets ici de souligner, parce que je crois que c'est ça qui va nous faire comprendre l'originalité tout à fait particulière de saint Thomas dans sa vision sur Jésus. Et je crois qu'il est le seul à avoir dit ça. C'est quand même très important, c'est la perle. Je prends ça. Je suis. C'est la personne du Christ pour nous. Il est présent. Je suis. C'est Jésus lui-même qui reprend l'affirmation de Dieu en montrant qu'il est. Alors le je suis, comme toujours, quand vous dites « je suis » et que vous voulez montrer tout ce qui est impliqué dans ce « je suis », C'est votre opération propre. Alors, le je suis de Jésus, puisqu'il est le Fils. On va regarder le Fils face au Père. Le je suis face au Père. Le je suis, le Père qui regarde le Fils. Et le je suis par rapport à nous. C'est la compréhension plénière de Jésus présent au milieu de nous. Jésus face au Père, c'est le mystère de son sacerdoce. Vous voyez comme c'est important. La personne de Jésus face au Père, il est prêtre. Le sacerdoce du Christ. Et le Père qui regarde le sacerdoce du Christ, c'est le mystère de la prédestination et le Fils bien-aimé. Le Père qui regarde le Fils, qui regarde le Je suis à travers son sacerdoce, il est le Fils bien-aimé. Et Jésus, par rapport à nous, c'est la médiation. Jésus est médiateur. Il est le médiateur par excellence. Vous avez là donc, dans une vision théologique, les pointes ultimes du mystère de l'incarnation. Le mystère de l'union, les conséquences du mystère de l'union hypostatique. C'est très très fort. Les conséquences du mystère de l'union hypostatique. Les conséquences du mystère d'union hypostatique fait que Jésus et le « Je suis » pour nous. Il est Dieu pour nous. C'est vrai, il est Dieu pour nous. Depuis le mystère de l'incarnation, je ne peux atteindre Dieu parfaitement que par Jésus. Donc il est Dieu pour nous, Emmanuel. Jésus, Dieu pour nous, nous met dans une relation nouvelle à l'égard du Père. Le mystère du sacerdoce. Nous sommes tous prêtres par rapport au Père. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? C'est d'être tous responsables en face du Père, de tous ceux qui sont autour de nous. Le sacerdoce du Christ. Et ce sacerdoce, vu du côté du Père, c'est le Fils bien-aimé. C'est merveilleux. Il y a un lien, une unité. Le je suis, c'est le Fils, oui, mais il est prêtre, il est Fils bien-aimé. Et par rapport à nous, ce prêtre et ce Fils bien-aimé, il est médiateur. C'est-à-dire qu'il prend sur lui toute la responsabilité de l'humanité. Médiateur par excellence. Nous avons un médiateur en face du Père, qui est le Fils bien-aimé, qui est prêtre. Vous voyez, ça c'est saint Thomas, dans un regard théologique, qui voit toutes les conséquences, dans l'humanité sainte de Jésus, du mystère de l'union hypostatique. C'est la nature humaine qui, grâce au mystère de l'union hypostatique, va aller jusqu'au bout, j'allais dire, de ses virtualités. C'est toutes les virtualités de l'image qui s'achèvent dans le Fils. Jésus, je ne peux pas dire que Jésus, dans son humanité, est image du Père. Non, Fils bien-aimé. Il est prêtre vis-à-vis du Père. Il est médiateur vis-à-vis de nous. Et ceci, dans l'unité de son être, je suis. Ce prêtre est je suis. C'est Dieu. Il est le Fils bien-aimé et médiateur. Et saint Thomas montre, alors là aussi, en regardant l'évangile de Jean, que c'est à la croix que se réalise le sacerdoce. C'est à la croix où le Fils, où le Père regarde le Fils bien-aimé dans son acte propre, et c'est à la croix qu'il est médiateur. Il est d'abord regardé en théologien comment la nature humaine du Christ, par l'union hypostatique, implique ses capacités, la qualité d'être prêtre, qualité d'être fils bien-aimé, la qualité d'être médiateur. Puis il regarde l'exercice, comment tout ça s'actue à travers la croix, dans le sacrifice de la croix, pour montrer que nous sommes ici en face du sacrifice par excellence. La croix représente le sacrifice le plus parfait qui soit, un sacrifice digne de ce prêtre qui est fils bien-aimé, un sacrifice qui est digne de ce fils bien-aimé prêtre qui est médiateur. Vous voyez comment se tient ce mystère, cette vision du théologien qui montre que grâce au mystère de l'union hypostatique, Jésus est Dieu pour nous. Je suis la parole du Père. Il est seul à pouvoir dire ça. Il est prêtre par excellence. Et saint Thomas précisera, il est fons sacerdoti. Il est donc la source de tout sacerdoce. Il est le Fils bien-aimé. C'est comme ça que le Père le regarde, dans son humanité. Vous voyez l'anthropologie, elle éclate, hein, là. C'est une divinisation. C'est pour ça que les pères grecs n'hésiteront pas à dire qu'on est divinisé, qu'on est fils bien-aimé du Père. Ils ne diront plus qu'on est image. Dans le Christ, on est fils bien-aimé du Père. Dans le Christ, on est tous prêtres. Mais on précisera que c'est la grâce. On est tous prêtres dans le Fils, en Jésus, et on est fils bien-aimé. Et en Jésus, on est tous médiateurs les uns des autres. On est responsable de celui qui est à côté de nous. On est responsable de la sœur qui fait son novitiat avec nous. Ou du frère qui étudie avec nous. Où on est responsable de l'époux ou de l'épouse que Dieu a mis proche de nous. Responsable dans l'amour. On est médiateur. Et la responsabilité du chrétien. Le poids de cette responsabilité. Et tout ça se réalise à la croix. Parce que c'est dans la croix que tout prend son achèvement. Nous sommes donc en présence d'une vision sacerdotal du Christ, d'une vision du Christ médiateur. Et je crois que c'est cela qui est tout à fait propre à saint Thomas par rapport à tous les théologiens de son temps. Il est celui qui a compris que l'ultime regard du théologien sur Jésus, c'est de comprendre qu'il est grand prêtre. Comme fils bien-aimé, parce qu'il est fils bien-aimé, il est grand prêtre. Et étant grand prêtre, il est médiateur, au sens le plus absolu, c'est celui qui nous donne la vie divine. Et cela se réalise à la croix. Alors, ça nous permet de dire, dans la vision de saint Thomas, voyez comme c'est actuel, hein, parce que je crois que c'est très actuel ça, ceci nous permet de dire que saint Thomas précise que Jésus à la croix étant notre sauveur, notre médiateur, notre grand prêtre, comme fils bien-aimé du Père, et celui qui nous engendre à la vie divine. Il est donc Père. Le sacerdoce du fils bien-aimé, c'est la paternité du Père. normal. Le Père met toutes ses complaisances en le Fils. Oh, quel est le secret propre du Père? C'est d'être Père. Mettre toutes ses complaisances dans le Fils, c'est que lui-même soit Père comme médiateur de la vie divine à l'égard de chacun d'entre nous. Il est donc grand prêtre, source de vie pour nous. C'est ça sa paternité sur nous. Le Père m'a remis toute autorité. Jésus le dit. Et ceci fait comprendre, vous voyez, j'allais dire, la qualité propre de ce sacerdoce. Ce sacerdoce, c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé auquel le Père a mis toutes ses complaisances. Et c'est pour ça qu'il est Père, source de vie pour nous. Et ça, je crois que c'est au cœur de toute cette vision de saint Thomas. Alors c'est dit, comme toujours saint Thomas, que celui qui comprenne, comprenne. C'est dit avec la plus grande simplicité. Une fois que vous avez compris ces trois sommets de toute son analyse théologique, je suis sacerdoce, fils bien-aimé, médiateur. Ce sont les sommets. Vous comprenez que tout cela explique le mystère de la croix et tout ça nous permet de comprendre comment Jésus, au sens le plus fort, il est celui qui nous engendre la vie divine. À la croix.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,